RFI, 17h10 à Paris.
Bonjour, ce n'est pas fréquent dans ce magazine, mais il nous arrive néanmoins de parler d'économie. Nous l'avons fait par exemple avec Thomas Piketty pour son travail sur les inégalités dans le monde. Eh bien, nous allons récidiver aujourd'hui et penser tout haut l'économie avec Keynes, pour reprendre le titre du livre de notre invité Paul Jorion, qui écrit notamment ceci. Keynes était aussi proche qu'un intellectuel puisse jamais l'être d'un homme d'État, susceptible de voir les décisions qu'il prend se matérialiser dans la réalité concrète. Idée donc, plus que jamais, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Vous pouvez aussi l'écouter en ligne et le podcaster. Nous vous en remercions. Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Merci d'être venu de Bruxelles pour cette émission, pour participer à cette émission. Alors, je suis heureux de vous avoir à ce micro car votre vision de l'économie m'intéresse et va beaucoup intéresser les auditeurs. Vous êtes un anthropologue qui a mal tourné en quelque sorte.
Oui, oui, on m'a fait une offre, c'était en 1990, on m'a offert de venir travailler dans les banques en tant qu'ingénieur. À l'époque, je faisais surtout de l'intelligence artificielle et c'était un moment où il y avait un tournant dans la finance, les méthodes devenaient plus compliquées, les modèles devenaient assez complexes et on cherchait des ingénieurs. Et il se faisait qu'à ce moment-là, malgré mon parcours antérieur d'anthropologue, j'avais un profil d'ingénieur, ce qu'il fallait à la finance à ce moment-là.
Ouais, alors vous avez travaillé dans des banques américaines, non ?
Oui, pendant 12 ans dans des banques américaines. Ouais, en Californie.
Alors, ce qui vous a permis de bien connaître le milieu du capitalisme américain, et vous avez notamment écrit ce livre, La crise du capitalisme américain en 2007, où vous annonciez la crise des subprimes.
Oui, tout à fait. Je travaillais dans ce milieu-là, et au moment où la crise a éclaté, j'ai continué encore à travailler à peu près une année entière dans la compagnie qui était la principale responsable de la crise des subprimes. C'est quelque chose que j'avais voulu faire. À ce moment-là, j'avais voulu me faire engagé par cette compagnie qu'il avait fait. Et donc, je me trouvais véritablement au front, comme un reporter qui monte au front.
Ouais. Alors, je dois noter aussi dans cette émission que vous avez été l'élève de Claude Lévi-Strauss.
Oui, effectivement. Et je dois dire que le jour où on m'a fait une offre d'entrer dans la finance, je suis allé le voir. Je lui ai demandé de me donner la possibilité d'en parler avec lui, de voir si c'était une bonne chose, si j'allais faire ce saut. Et s'il m'avait dit non, je crois que je l'aurais pas fait, effectivement. Je serais resté anthropologue un peu en dehors de cela. Mais il s'est enthousiasmé à l'idée, en disant c'est formidable, on vous donne la possibilité d'aller voir un milieu qu'on observe très peu. Et il ajoutait qu'en ce moment, il trouve que l'anthropologie était un petit peu dans un creux et que donc c'était le meilleur moment pour faire ce genre de choses.
Alors vous avez enseigné Paul Jorion à Bruxelles, à Cambridge, à Paris aussi, à l'Université de Californie à Irvine. Vous avez été fonctionnaire aux Nations Unies, à la FAO, hein, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait.
Quelle vie riche et quelle façon d'aborder en fait la réalité de l'économie avec des expériences différentes ?
Oui, j'ai eu la chance de me retrouver à plein d'endroits à faire des choses passionnantes, à commencer par travailler un peu comme pêcheur breton, comme mousse en fait, parce que je ne connaissais pas le métier, puis il m'a retrouvé sur les plages africaines ou au Bénin essentiellement, au Ghana, un peu dans d'autres pays comme le Sierra Leone ou le Liberia, à étudier les pêches et à essayer surtout, je dirais, de rendre service aux pêcheurs dont on me disait qu'ils ne connaissaient pas grand-chose à leur métier. Je me suis aperçu que c'est surtout eux qui m'ont appris leur métier, mais j'ai essayé de rendre un coup de main par des analyses un petit peu plus poussées sur la manière peut-être d'améliorer quand même l'économie locale.
Oui. Alors peut-être vous écoute-t-il d'ailleurs aujourd'hui, hein, Paul Jorion, en Afrique. Et donc, vous avez ce regard sur l'économie qui est le vôtre, celui d'anthropologue, d'ingénieur, d'homme du terrain aussi. Et vous vous présentez dans ce livre dont on va parler aujourd'hui, Pensez tout haut l'économie de Keynes. Vous êtes très, très modeste et ironique avec vous-même. Vous écrivez, pendant quelques dizaines d'années, j'ai été connu dans les milieux économiques sous l'appellation peu flatteuse et disqualifiante de l'homme qui ne comprend pas la loi de l'offre et la demande.
Oui, effectivement. Bah, c'est-à-dire que j'avais donc vécu un an et demi dans une île bretonne, l'île de Watt, au large de Quiberon. Oui, c'est très joli. C'est à 15 kilomètres des côtes. On faisait à l'époque, on ne fait plus de la pêche artisanale. Et je me suis retrouvé là avec plein de données sur les quantités pêchées, les prix qui avaient été obtenus par les pêcheurs. Et je m'étais dit, dans ma thèse qui s'appelait Anthropologie économique de l'île de Watt, je me suis dit, je vais consacrer un chapitre simplement à montrer comment opère la loi de l'offre et la demande. Et ça ne marchait pas. Les données que j'avais, ça ne collait pas du tout à une représentation en termes d'offre et de demande. Et alors, j'ai dû chercher à faire autre chose. Et on m'a demandé, à ce moment-là, on m'a reconnaissé un mérite en tant que spécialiste des pêches, on m'a demandé un rapport sur la formation des prix à la pêche. Et j'ai expliqué que ça n'avait aucun rapport avec la loi de l'offre et la demande. Et du coup, le rapport n'a pas été publié. Et j'ai entendu les bruits qui couraient. Il ne comprend même pas la loi de l'offre et la demande. Non, ce qui s'était produit, c'était que des données que j'avais récoltées montraient qu'en fait, cette loi à laquelle tout le monde croit, ce n'est pas comme ça que les prix en réalité se forment. Les prix se forment essentiellement par un rapport de force qui se décide au moment même entre l'acheteur et le vendeur, et où évidemment les quantités pêchées ou les quantités qui sont en présence, qui sont demandées, va jouer comme un facteur dans ce rapport de force. Mais dans la plupart des cas, ce facteur ne joue pas un rôle déterminant. Ce sont d'autres facteurs qui jouent, des facteurs de l'ordre de l'humain et surtout le rapport de force entre acheteur et vendeur.
Alors, est-ce que la pensée de John Maynard Keynes est à réinventer aujourd'hui ? Oui, manifestement.
Oui, mais l'intérêt principal, je dirais, de Keynes, c'est qu'il s'est improvisé économiste. Il est connu comme le plus grand économiste du XXe siècle, au moins le numéro 2 ou le numéro 3.
Il est souvent cité, en tout cas.
Oui, il est très cité, et on a appliqué ses politiques. Les politiques qu'il a proposées dans les années 30 ont été appliquées, essentiellement d'abord aux États-Unis, mais par la suite, dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses chez nous, ce qu'il avait recommandé a été appliqué. Mais je dirais, peut-être l'avantage qu'il a eu, c'est qu'on lui a proposé un poste d'assistant en sciences économiques, alors qu'il n'avait aucune formation dans le domaine. Il l'a accepté, et du coup, il a dû s'improviser, je dirais un petit peu, à partir des connaissances qu'il avait par ailleurs. Et c'est que les connaissances qu'il avait par ailleurs, c'est surtout les mathématiques. Il avait son diplôme étant en mathématiques, mais aussi, bon, dans le climat de Cambridge, il s'était très bien formé à la philosophie. Et de son bagage en mathématiques, paradoxalement, il a tiré la conclusion qui est que les mathématiques ne seraient en fait d'aucun renfort pour la science économique. Il en a tiré, je dirais, la conclusion inverse de tous les économistes qu'il avait précédés et qui, eux, n'étaient pas mathématiciens et qui s'étaient convaincus que les mathématiques allaient jouer un rôle déterminant dans ce domaine.
Alors, on va évidemment y revenir, et notamment son intérêt pour la psychologie, même la philosophie que vous soulignez dans ce livre, Paul Jorion. Quand on parle de Keynes aujourd'hui, pour parler très clair, on parle de quoi ? De l'intervention de l'État, des pouvoirs publics dans l'économie, de régulation de l'économie de marché, du rôle des salaires, l'importance des salaires, c'est ça ? À chaque fois, c'est ça qui ressurgit quand on parle de Keynes, non ?
Oui, oui. Il s'est érigé d'abord en grand adversaire du laisser-faire. Il avait en face de lui, et il a toujours, si l'on peut dire, parce que l'opposition à Keynes est toujours là, des gens convaincus qu'il existe une main invisible, comme on avait parlé Adam Smith, c'est-à-dire que si chacun suit son intérêt personnel, le système fonctionnera mieux que si on essaie d'interférer. Et lui a dit non, nous sommes des êtres humains, nous pouvons réfléchir, nous pouvons aboutir à des conclusions et mettre en pratique ces conclusions. Un autre de ses apports, c'est qu'il n'y a pas de décision purement économique. On ne peut pas prendre une décision uniquement pour des raisons économiques. L'économique doit être, selon lui, subordonnée aux politiques. Il faut prendre des décisions en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et là, effectivement, il avait défini le problème qui se posait à nous tous par rapport à l'économie de la manière suivante. On ne peut pas imaginer que dans nos sociétés, tout le monde soit d'accord sur absolument tout, mais à l'inverse, on peut essayer de minimiser les dissensions, minimiser le ressentiment dans les populations. Et comme il y a plusieurs solutions au problème d'un équilibre économique, selon lui, il faut décider à quel niveau d'équilibre on veut se situer. Et celui auquel il faut se situer, c'est celui, justement, qui minimise le ressentiment dans une population. Et dans la situation qui était celle de 1936, d'un énorme chômage, il a dit, voilà, ce qui peut minimiser les dissensions dans nos sociétés, c'est le plein emploi. Donc, il faut viser cela, non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons politiques. Et vous avez mentionné les salaires, c'était aussi une vue qu'il avait. Il y a une chose à laquelle il ne faut jamais toucher à la baisse, disait-il, parce que c'est comme pousser sur le bouton du ressentiment, pousser sur le bouton des dissensions dans une société, c'est baisser les salaires. Il faut trouver une solution au problème d'une autre manière. S'il faut ajuster une variable, ça ne doit pas être celle-là. Il ne faut pas faire baisser les salaires, il faut trouver un autre moyen de résoudre les problèmes de société. Et oui, tout ça, effectivement, à mon sens, est encore très pertinent.
Alors, on va parcourir quelques-uns de ces livres que vous analysez dans votre ouvrage, Paul Jorion, mais c'est lui qui a aussi dit, Keynes, que l'économie est une activité de casino,
non ? Non, il était lui-même un spéculateur et il avait une vision assez favorable du spéculateur. Mais il avait dit ceci, il avait dit que la spéculation ne doit rester que comme la mousse à la surface d'un liquide, il pensait à la bière j'imagine, et ne pas gêner le mouvement général. Mais au moment où, dit-il, où aussi l'économie devient l'appendice, la dépendance d'un casino, alors là, oui, non, il faut arrêter absolument.
Alors Keynes, né en 1883, mort en 1946, je donne ce repère chronologique important. Et de façon générale, vous ouvrez votre livre, votre introduction de ce livre, Paul Jorion, avec un regret. Vous dites, vous regrettez que le terme économie politique soit devenu le terme science économique, parce qu'il y a le mot science.
Oui, oui. Non, c'est pas parce qu'il y a le mot science, parce que faire une science, c'est une bonne chose. Il y a des choses qui sont de l'ordre quand même de la vérité dans les discours qu'on peut tenir. Non, ce qu'il y a, c'est que, en fait, l'économie politique, qui a duré jusqu'aux années 1870, était une véritable science, ou en tout cas l'embryon d'une véritable science. Alors que la science économique qu'on nous a imposée par la suite, et qui, dont la mathématisation est ridicule, dépasse de loin son objet, en fait, est fort une pseudo-science. Elle est une pseudo de science parce qu'elle ne respecte pas les règles du fonctionnement scientifique, c'est-à-dire la réfutation par les exemples contraires. Il y a un sociologue de la pensée qui s'est intéressé en particulier à la finance, qui a constitué un livre très bien documenté avec plein d'interviews de prix Nobel d'économie, et il met en évidence le fait que la science économique, et il faudrait mettre le mot science entre guillemets, ne fonctionne plus comme un discours scientifique. Il résiste à l'information par les faits. Quand il y a un conflit entre une théorie que tout le monde accepte et de nouveaux faits, on maintient la théorie et on rejette les faits.
Alors ce qu'il faut souligner tout de suite, Paul Jorion, c'est que très tôt, il avait 31 ans, en 1914, Keynes est devenu à la fois un universitaire, maître de conférences, vous le rappelez dans le livre, à Cambridge, et aussi fonctionnaire au Trésor. Il avait, comme on dit aujourd'hui, une double casquette.
Oui, c'est-à-dire on l'a fait. Non, il s'est inscrit. C'était dans une période où il n'avait pas d'affiliation universitaire. Il s'est présenté à un poste au ministère des Finances et il a été accepté comme jeune fonctionnaire. Il donnait effectivement encore un enseignement, mais ça n'occupait pas tout à cette époque-là. Ça n'occupait pas tout son temps. Et il est mis essentiellement sur la question de la monnaie indienne. Pourquoi ? Parce que en Inde, l'or fonctionne encore. Comme une véritable monnaie. Il y a des réserves d'or tout à fait considérables en Inde à cette époque-là, et je crois que c'est toujours le cas. Et il faut essayer d'intégrer ce système indien avec le fonctionnement d'une colonie britannique. Et c'est là-dessus qu'il travaille essentiellement avant que la guerre éclate. Dès que la guerre éclate, on le met sur le dossier de l'économie de guerre, et il aura une expérience très intéressante, puisqu'il s'occupera de régler l'économie de guerre britannique durant deux guerres. La première fois durant la Première Guerre mondiale, mais la seconde fois, à nouveau, durant la Seconde Guerre mondiale, et là, en bénévole, c'est-à-dire il ne sera jamais payé pour l'activité qu'il fait là, alors qu'il jouera un rôle tout à fait déterminant.
Et ce qui est intéressant, Paul Jorion, c'est qu'il est à la fois observateur, analyste et acteur, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Oui. Et en particulier, il est envoyé par le ministère en 1919 à la conférence de Paris qui déterminera le traité de Versailles. Oui. Et là, il est véritablement acteur. Il est acteur une première fois en faisant partie d'une délégation officielle. mais surtout en claquant la porte, en quittant, en étant outragé par la manière dont les vainqueurs traitent les vaincus. Et là, il écrit un livre.
Les conséquences économiques de la paix.
Voilà, exactement. Et c'est un livre qui deviendra un très grand succès. Il sera vendu à 100 000 exemplaires, sera traduit dans de nombreuses langues. Et là, il aura, c'est un ouvrage qui est d'une très très belle qualité. C'est très bien écrit. Il fréquente beaucoup les écrivains, les peintres du groupe de Bloomsbury. Il fait un effort, je dirais, d'écriture tout à fait remarquable. Et c'est un livre qui a énormément de succès. Et c'est un livre où il prédit que si le traité de Versailles et les autres traités qui sont conclus à cette époque-là sont mis en application, c'est toute une génération, dit-il, qui va être sacrifiée et nous allons nous retrouver dans des problèmes du même ordre très rapidement. Et là, il aura, voilà, c'est une prophétie, mais c'est une prophétie qui s'est réalisée, je dirais.
Hélas,
qui s'est réalisée.
Oui. Alors, le groupe de Bloomsbury, il faut le signaler, très important dans sa formation et on le connaît, ce groupe, grâce à Virginia Woolf.
Oui, c'était pas son amie la plus proche dans le groupe. Il s'entendait beaucoup mieux avec la sœur de, avec Vanessa, avec la sœur de Virginia Woolf. Mais il avait des conversations avec elle. Et ce sont des conversations qu'on connaît par sa correspondance, mais aussi par le journal de Virginia Woolf. Et ce sont des conversations, je dirais, où on parle au plus haut niveau de l'avenir du monde. C'est splendide de voir des jeunes gens qui ont cette capacité de comprendre l'époque qui est la leur. C'est splendide.
Alors ça, c'est le début du livre. Vous êtes plutôt laudateur. Vous dites du bien de Keynes et de son milieu. Après, on va voir que vous êtes un peu plus critique.
Oui.
Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Keynes a très vite, et dans un livre qui s'intitule « Traité des probabilités », que vous analysez aussi dans votre ouvrage à vous, en 1921, remis en cause l'importance des mathématiques.
Oui, tout à fait. Oui, c'est quelqu'un qui s'est convaincu d'abord que les mathématiques... Il n'est absolument pas platonicien, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, platonicien? C'est parce que Platon considérait que les choses qui nous entourent sont des manifestations des nombres dans le monde. Et beaucoup de mathématiciens ont une conception de ce type-là. De croire que quand on produit un modèle mathématique de quelque chose, en fait, on est très proche de la vérité profonde de cela. Mais il y a un autre courant, et c'est le courant finalement d'un élève de Platon qui est Aristote. Aristote considérait que les mathématiques, c'est simplement pour nous une manière, je dirais, de styliser notre représentation du monde. C'est une manière pratique de représenter les choses, mais qui ne dit rien sur une vérité profonde. Et Keynes était véritablement, je dirais, de cette option-là. Il considérait qu'il ne fallait pas mettre de modèle mathématique sans nécessité. Il en a mis quelques fois dans ses livres, mais ça a été surtout sous la pression de ses élèves. Mais surtout, c'était en particulier sur la probabilité, oui, qu'il avait étudié en mathématiques. Il était convaincu que sur l'avenir du monde, il y a très très peu de choses sur lesquelles on puisse avancer en fait avec une certitude quelconque. Et il s'opposait véritablement à tous ceux qui imaginaient qu'il y a une probabilité de type mathématique pour les événements de se produire ou non.
Alors ce qui est notable, c'est que Keynes, le matheux, comme on dit aujourd'hui, aurait pu, et vous le soulignez aussi dans votre livre, dans votre analyse, Paul Jorion, être philosophe. C'était un philosophe aussi.
Oui. Il avait un très très grand intérêt pour cela. Et d'ailleurs, ses professeurs et même son père étaient offusqués de découvrir à un certain moment qu'il était plongé, au lieu de préparer ses examens de mathématiques, il était plongé dans la poésie, dans la philosophie médiévale, des scolastiques, et au lieu de s'intéresser à ce qui devait être la matière de l'examen. Oui, c'est quelqu'un qui est resté passionné par les questions de tout ce qui est de l'ordre de la pensée, de la réflexion. Il y a un très beau passage sur ce que représente un livre, vous avez dû voir ça.
Mm-hmm. Et est-ce qu'on regrette d'ailleurs qu'il n'existe plus, enfin peut-être qu'il existe encore des économistes comme lui, mais maintenant ce sont plus des techniciens, non?
Ben, c'est-à-dire, oui, il a bénéficié, je crois vraiment, du fait d'avoir dû s'improviser économiste. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait? C'était que William Marshall était professeur de sciences économiques à une époque où à Cambridge, il n'y avait pas encore véritablement de département de sciences économiques. Et il avait proposé au père de John Maynard Keynes, qui s'appelait Neville, il lui avait proposé, à l'époque, de devenir son assistant sur les questions d'économie. Et le père était un homme, je dirais, un petit peu falot, qui a préféré faire sa carrière dans l'administration de l'université. Et une génération plus tard, quand Marshall voit une occasion de proposer au fils de Neville Keynes la possibilité de faire la même chose, il lui propose d'être assistant en économie. Et là, une génération plus tard, il réussit. Mais la différence, c'est qu'il a devant lui quelqu'un qui n'est pas un économiste de formation. Et il y a un auteur récent qui a fait un calcul et qui a vu que son information, les leçons qu'il avait véritablement suivies en économie représentent l'équivalent de 8 semaines de leçons, ce qui est vraiment pas grand-chose. Pour le reste, il a vraiment improvisé. Bien entendu, il a commencé à connaître très bien ce dont il parlait, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il cite très très rarement ses prédécesseurs. En fait, il ne les connaît pas bien.
Alors Paul Jean-Yon, nous allons marquer une pause pour suivre à nouveau les affaires du monde de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer.
Neurologique, leur état est stable.
Pensons tout haut l'économie avec Keynes dans ce numéro de votre magazine dominical. Nous le faisons en compagnie de Paul Jean-Yon qui vient d'écrire un livre sur cet économiste et d'un livre dont le titre est Pensez tout haut l'économie avec Keynes. Livre publié chez Odile Jacob. On a commencé grâce à vous, comme vous le faites d'ailleurs dans cet ouvrage, à retracer les étapes du travail universitaire de recherche de John Maynard Keynes, un des économistes, on l'a vu, les plus cités de tous les temps. On a parlé de son rôle lors de la signature du traité de Versailles, de sa prophétie, sa critique des sanctions contre les Allemands. Il faut avancer un petit peu. Et c'est quelqu'un qui, en plus, Paul Jean-Yon, Keynes, qui n'hésitait pas à combattre sur le plan politique. Il a mené un combat, par exemple, sur la monnaie, la livre, sur la question de l'étalon or. Alors, nous n'avons pas l'habitude de parler d'économie dans cette émission. Cela demande un petit peu d'explication.
Oui, et il s'est retrouvé avec son adversaire à l'époque, c'était Winston Churchill. À l'époque,
et quel adversaire ?
Voilà, mais à l'époque où Winston Churchill était ministre des Finances en Angleterre, pas Premier ministre. Mais sur la question de l'étalon or, Churchill était convaincu qu'il fallait à une monnaie un étalon or et il a essayé très rapidement, après la guerre de 14, quand les Anglais avaient dû l'abandonner, les Britanniques avaient dû l'abandonner parce que l'effort de guerre ne leur permettait pas de continuer à soutenir la parité entre la monnaie et l'or, mais aussitôt la guerre terminée, il a voulu le réinstaurer. Et il l'a fait. Il l'a fait pendant un certain nombre d'années. Et Keynes, lui, était absolument opposé à ça. Il avait été donc un penseur de comment essayer de réconcilier la monnaie comme la livre sterling avec le fonctionnement de la monnaie en Inde où les métaux continuent à circuler de manière essentielle. Il avait bien réfléchi à cette question et il était convaincu qu'une monnaie moderne, une monnaie en fait à proprement parler, est une monnaie qui n'a pas de contrepartie autre que la richesse qui est créée dans le pays dont il est question. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une équivalence entre la croissance, comme on dit, et la quantité de monnaie qui circule, mais c'est la chose simplement à respecter. Il ne faut pas confondre la monnaie avec une marchandise, comme le serait, par exemple, des pièces d'or ou d'argent qui ont une valeur en tant que telle. Il y a une valeur en tant que telle, on peut prendre ces pièces d'or, on peut prendre ces pièces d'argent, on peut les fondre, et on a un produit qu'on peut vendre à un prix très élevé. Selon lui, la monnaie, c'est quelque chose qui doit être détaché d'une réalité de ce type-là. Elle ne doit pas être une marchandise. Elle doit être, à proprement parler, une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle repose sur la confiance qu'on a dans l'État qui l'émet. Et ça, ce n'est pas sans produire de difficultés, mais on le sait dans la zone euro en ce moment, oui. Ce n'est pas facile à organiser.
Alors, l'homme, à la fois dans le système économique de l'époque et observateur de l'époque, est un homme qui a très vite aussi compris ce qui se passait en Russie. Il a écrit un bref aperçu de la Russie, ça fait partie des livres que vous observez dans le livre, et il était farouchement contre le communisme.
Son attitude a évolué. C'est en 1926, j'ai bon souvenir, qu'il fait un voyage en Union soviétique parce qu'il est marié à une Russe et il a donc la possibilité durant ce voyage d'être un invité officiel de l'Académie des sciences et donc de voir comment fonctionne le régime communiste, mais aussi de voir comment il fonctionne au niveau de la population parce que le père de son épouse était quelqu'un de très modeste qui est portier dans un cinéma et donc Keynes a la possibilité de voir le communisme en action. Mais au moment où la Seconde Guerre mondiale se déclenche, il fait des déclarations assez différentes. Il dit en particulier, il n'y a que parmi les jeunes gens, il y a surtout, je dirais, ceux qui sont communistes en ce moment, à qui on peut véritablement faire confiance sur un plan théorique, de comprendre les choses et savoir où il faut aller. Mais il faut dire que dans le milieu qu'il fréquente, dans le milieu de Bloomsbury, le milieu des artistes, on est massivement en faveur de l'Union soviétique. Et on le sait, dans l'université, il travaille, où le travail à l'Université de Cambridge, il y aura un recrutement massif de gens qui travailleront de fait pour l'Union soviétique. Donc son attitude évolue un petit peu, mais son attitude vis-à-vis du marxisme restera toujours aussi négative.
Oui, d'ailleurs, vous le citez, Paul Jorion, il écrit « Comment pourrais-je accepter une doctrine qui s'est choisie pour Bible par-dessus et par-delà toute critique envisageable, un manuel d'économie dépassé dont je sais qu'il n'est pas simplement faux sur le plan scientifique, mais aussi dénué d'intérêt ou d'application possible dans le monde moderne. » Marx.
Oui, et là, paradoxalement peut-être, c'est son engagement politique qui n'a jamais changé. Il s'est toujours dit socialiste, il a toujours agi, je dirais, comme un socialiste, même s'il y a, vous trouverez des livres qui disent que Keynes n'est pas socialiste. Non, il l'a toujours répété, il en est convaincu, mais il est convaincu aussi que le marxisme tel qu'il a été appliqué en Union soviétique est une occasion ratée et qui va faire croire à des tas de gens que le socialisme n'est pas une bonne idée. Et c'est ça surtout qu'il reprochait à Marx. Il voyait en Marx essentiellement un lecteur de Ricardo. Et Ricardo, c'était David Ricardo, qui était donc un économiste, agent de change, spéculateur du début du 19e siècle. C'était le contraire de ce que Keynes voulait faire. Et il considérait que Marx n'avait pas ajouté grand-chose à la pensée de Ricardo. Donc il était surtout, je dirais, excédé par les erreurs qu'il voyait chez Marx, parce qu'elles avaient été mises en application. Et son sentiment, c'est que le marxisme d'Union soviétique allait retarder de peut-être de 100 ans, de 200 ans, la possibilité pour le monde de devenir socialiste, qui était, pour lui, c'était son idéal.
Dans un chapitre intitulé « Le capitalisme est une caricature du darwinisme », vous parlez d'un autre livre important qui s'intitule « La fin du laisser-faire », qu'il a écrit en 1926, et avec une phrase mais qui résonne dans l'actualité aujourd'hui, il écrit dans ce livre... entre autres, hein. Suggérer à la City de Londres une action de type social dans une perspective de bien public est l'équivalent de discuter de l'origine des espèces avec un évêque il y a 60 ans. C'est écrit en 1926.
Oui. Et il ajoute, c'était un problème moral.
Oui.
Comment interpréter ça?
La réaction instinctive n'est pas d'ordre intellectuel, mais moral.
Oui, ouais. C'est ça. Il veut dire, ce sont deux représentations du monde tout à fait différentes. Et il connaissait déjà von Hayek, qui, après la guerre, a dit que la notion de justice sociale est privée entièrement de signification. Il n'a pas connu la pensée de Friedman, qui a dit ensuite que toute réflexion d'ordre social conduit immanquablement à un totalitarisme. Et Friedman ne pensait pas à Monsieur Pinochet, le
Milton
dictateur.
Milton Friedman, oui.
Oui, Milton Friedman, qui s'est proposé d'aller conseiller délibérément Pinochet. Donc, quand Friedman parle de totalitarisme, il ne parlait pas du tout, je dirais, de régime militaire de type fasciste. Non, il pensait uniquement à l'Union soviétique et convaincu que toute réflexion d'ordre social conduit immanquablement au communisme soviétique. Voilà, il avait en face de lui des gens dont il parle là, des gens qui sont puissants, puisqu'ils ont aussi accès, je dirais, à l'argent qui leur permet de répandre plus facilement leurs idées.
Donc la rationalité économique et l'éthique étaient inconciliables pour eux.
Mais c'est-à-dire que, vous le savez sans doute, depuis le 18e siècle, 19e siècle, les milieux financiers ont tenu un discours systématique, et qu'ils tiennent toujours, en disant que l'éthique n'est pas d'application dans leur domaine. À l'intérieur du domaine de la finance, il y a un autre principe qui fonctionne, qui est celui des jugements d'utilité des individus qui sont vus comme des consommateurs interchangeables. Et en fonction de ces jugements d'utilité qu'ils font dans une perspective rationnelle, il y a toute une logique, et cette logique est indépendante de la question de l'éthique. Mieux, elle est en fait souvent opposée à la question de l'éthique. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a quand on doit réguler et ensuite réglementer à nouveau le milieu de la finance, c'est que depuis plusieurs siècles, il le clame, une extraterritorialité, si vous voulez, par rapport à l'éthique. Et ça renvoie à cette phrase d'Adam Smith disant, ce n'est pas en s'adressant au désir de réaliser le bien commun du boucher, du brasseur, du boulanger que nous devons, ce n'est pas à cela que nous devons nous adresser, nous devons compter sur leur intérêt égoïste qui va les conduire, en fait, à travailler vis-à-vis du bien commun. Et c'est cela, je veux dire, c'est cette image de la recherche de l'intérêt égoïste qui est essentiel pour les milieux de la finance. Il faut savoir que M. Greenspan, qui a été pratiquement 20 ans à la tête de la Federal Reserve, la Banque Centrale Européenne, a fait un grand discours à l'époque, c'était en 2005 ou 2006, à l'époque où les milieux financiers américains érigeaient un monument à Adam Smith pour avoir prononcé cette phrase dans sa ville natale à Kilkenny en Écosse.
Alors, il a beaucoup publié ses conférences que vous analysez aussi. Dans l'une d'entre elles, Alternative économique qui s'ouvre à nos petits-enfants, il écrit ceci, et là aussi, ça a une résonance actuelle incroyable. Il écrit « Nous souffrons d'une nouvelle maladie dont certains de mes lecteurs n'auront pas même encore entendu mentionner le nom, mais dont ils entendront abondamment parler dans les années qui viennent, à savoir le chômage technologique.
» Oui.
1928.
Oui, il voit déjà ça se dessiner. Alors qu'on est, on est au tout début de la grande crise et où le problème essentiel c'est de remettre les gens au travail, mais il voit se dessiner ça et il définit ça comme le fait que l'économie créera moins d'emplois qu'il n'y aura de gens disponibles pour les utiliser. Et nous sommes en plein dans cette période-là qu'il annonce.
Ça s'appelle le chômage structurel.
Voilà, chômage structurel et dont malheureusement on ne tient pas véritablement compte. On parle de problème de l'emploi en mettant cela tout à fait entre parenthèses. Alors que le remplacement par la machine s'est accéléré, en particulier par l'introduction de l'ordinateur individuel qui a été un bond dans la productivité. Mais tant que des personnes utilisent des machines de ce type-là, mais maintenant le remplacement du travail manuel par des robots, remplacement du travail intellectuel par des logiciels, ça a lieu de manière tout à fait massive. Et les nouvelles compagnies, les compagnies qui créent énormément de richesses, sont des compagnies qui emploient très très peu de personnes. On ne crée plus d'entreprises où on recrute des milliers de personnes, ça n'existe plus.
Alors, il avait aussi, vis-à-vis de l'argent, en tant qu'homme, en tant qu'économiste, une vision très critique. Hein. Il écrivait ceci, c'est dans votre livre, « L'amour de l'argent comme une possession à distinguer de l'amour de l'argent comme un moyen d'obtenir les satisfactions et de pourvoir aux nécessités de la vie sera reconnu un jour pour ce qu'il est, une affection assez répugnante, l'une de ces propensions semi-criminelles, semi-pathologiques que l'on confie avec un frisson aux spécialistes de la maladie mentale. »
Oui, c'est très dur.
C'est intéressant le style de Keynes aussi.
Ah oui, tout à fait. Il se situe toujours dans cette perspective de l'éthique. Dire que l'amour de l'argent, c'est un problème qui relève de la psychiatrie, c'est peut-être un
petit
peu...
Ça ne s'est pas arrangé depuis, en tout cas. Hein.
Ça ne s'est pas arrangé depuis, mais enfin, bon, c'est peut-être une façon, je dirais vraiment, de simplifier les choses. Mais non, à quoi ça renvoie aussi, quand il dit ça, c'est à la définition qu'il donne du problème économique. Et dit le problème économique, il y a deux dimensions. Il y en a une qu'on peut résoudre et l'autre qu'on ne peut pas résoudre. Le problème économique qu'on peut résoudre, c'est de sortir tout le monde de la pauvreté. Et dit ça, nous avons le moyen de le faire. Mais le problème qu'on ne peut pas régler, c'est le désir de certaines personnes d'être plus riches que tout le monde. Parce que c'est une escalade et c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. On ne peut pas rendre un certain nombre de personnes plus riches que tout le monde. Il y en aura toujours un qui sera au sommet. Et ça, dit-il, c'est la chose à laquelle il faudrait pouvoir s'attaquer si on veut résoudre véritablement le problème économique. Et sa solution, il dit, c'est surtout, on connaît ça, c'est surtout les nouveaux riches qui ont ce sentiment qu'il faut absolument qu'ils soient plus riches que tout le monde. Quand tout le monde aura été riche pendant un certain nombre de générations, le problème sera réglé. Voilà, exactement. Parce qu'il dit, les gens qui viennent d'un milieu qui est fortuné depuis plusieurs générations, ils n'ont pas ce souci-là.
Le monde. Alors Paul Jorion, vous analysez donc dans la première partie de votre livre « Penser tout haut, l'économie avec Keynes », les écrits de formation et les premiers écrits, on y a fait référence jusqu'ici. Il nous faut à ce stade de l'émission parler du grand œuvre, du maître livre de Keynes, intitulé « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », livre publié en 1936. Vous dites que dans ce livre, il y a des feux d'artifice, les feux d'artifice ne manquent pas, mais dans ce livre aussi, il y a une véritable usine à gaz.
Oui.
Alors d'abord les feux d'artifice.
Les feux d'artifice. Mais c'est-à-dire il fait un traité sur la monnaie en 1930, donc 6 ans auparavant. Et très rapidement, il n'est pas content de ce traité sur la monnaie dans lequel il avait mis tout ce qu'il savait. Et c'est essentiellement lié au fait qu'il fait une erreur très grave. Il croit que les banques commerciales créent de l'argent ex nihilo. C'est une croyance qui est encore répandue dans la population. Oui. Mais il se rend compte que c'est une erreur et par conséquent tout son ouvrage sur la monnaie repose sur une erreur. Donc il veut modifier ça, il veut avoir autre chose. Mais aussi, il veut s'adresser directement à la question du chômage qui est massif à cette époque-là. Et il se lance dans un ouvrage qui prendra donc pas mal d'années. Mais finalement, l'ouvrage publié qui lance des idées très très importantes, où il reprend son idée contre le laisser-faire, où il exprime dans le dernier chapitre, il y a vraiment son manifeste de passage au socialisme. Il y a énormément d'éléments très très intéressants. Mais il y a des choses pour lesquelles il n'a pas tellement d'intérêt. Il y a des choses aussi pour lesquelles il fait confiance à certains de ses étudiants thésards pour remplir les vides, et en particulier avec certains avec certains modèles. On voit finalement c'est un ouvrage de briques et de broc où il y a des traits de génie, mais aussi il remplace les choses sur lesquelles il n'a pas eu le temps véritablement de faire un travail en profondeur. Il les appelle des mécanismes psychologiques, il appelle ça les esprits animaux, qui sont pratiquement, je dirais, des private jokes, un peu des plaisanteries qui malheureusement ont été prises au sérieux par certains des lecteurs de Keynes par la suite.
Et pourtant c'est effectivement le maître livre, c'est le livre qui revient quand on parle de Keynes, c'est ce livre-là que l'on cite souvent.
Oui, mais il aurait fallu prendre un peu avec un grain de sel, c'est-à-dire distinguer ce qui était vraiment original et très intéressant dans le livre, des choses qui sont un peu liées, je dirais, à ce qui était quand même un trait de caractère assez répréhensible chez lui, une très grande arrogance de classe, une très grande conviction de sa propre intelligence et qui lui permet parfois, il dit à un moment, il dit que ce que je vous propose comme modèle soit vrai ou faux n'a finalement pas tant d'importance. Quelle arrogance extraordinaire. Si, ça, tout le monde sait que ça a une importance de savoir si un modèle est vrai ou faux.
Un peu,
oui. Voilà, exactement. Et puis on lui dit, non, puisque je vous le dis, eh bien, voilà, faites-moi confiance. Non, ça, c'était, je dirais, un des traits de caractère chez lui qui donne un petit peu de l'urticaire, auquel on peut être un peu allergique, ce qui est mon cas.
La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, livre publié en 1936. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que c'est aussi le but de ce livre, Paul Jorion, l'actualité de Keynes. Qu'a-t-il à nous apporter?
Mais un peu des choses qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple qu'il ne faut pas essayer de faire baisser les salaires, que ça c'est une recette pour un désastre. Or, c'est la politique qu'on appelle l'austérité maintenant, ça fait partie de la politique qu'on applique. L'idée qu'il n'y a pas de solution économique à proprement parler aux problèmes qui se posent dans des sociétés, et donc il faut faire un choix politique, alors que vous savez, il y a un peu, une démission du politique devant l'économie. Oui. On entend beaucoup de ministres qui nous disent « Oui, moi je voudrais pas vraiment faire ça, mais c'est l'économie qui m'impose. » Alors ça, là, il considérait qu'on ne peut pas dire ce genre de choses. Il faut au contraire, il faut que le désir de faire des choses pour la population doit primer sur des supposées contraintes de type économique. Et aussi, la chose qu'on oublie essentiellement maintenant, c'est son idée qu'il faut minimiser dans une population si on veut qu'elle continue à vivre ensemble, si on veut que, pour appeler les choses par leur nom, que l'opinion publique ne se rassemble pas aux extrêmes, il faut minimiser les dissensions dans une population. Il faut minimiser le ressentiment de la population. Or, on a l'impression en ce moment, dans nombreux pays, que les efforts qui sont faits sont essentiellement pour augmenter la dissension de la population. On a l'impression parfois que les ministres essayent de se mettre tout le monde à dos si c'était possible. C'est pas évidemment comme ça qu'il faut faire, parce que il vient un moment où la pression augmente trop dans la cocotte minute et où le couvercle finit par s'envoler.
Ce qui est aussi important, mais ça dépasse l'économie, Paul Jorion, c'est que vous dites aussi qu'on ne peut pas comprendre Keynes sans parler aussi de son amour pour les arts. Parce que c'est aussi ce qui le distingue
des
économistes classiques.
C'est-à-dire qu'en fait, son amour pour les arts, je dirais, il est un peu dérivé de son amour pour un certain nombre de ses condisciples, de ses camarades. Voilà, il n'est pas du tout quelqu'un qui va fréquenter des banquiers, il est quelqu'un qui va rester, je dirais, amoureux de ce milieu extrêmement libre de mœurs. Il sera libre de mœurs lui-même, qui voudra toujours s'intéresser aux idées les plus neuves, qui voudra expérimenter en matière de peinture, en matière de musique, en matière d'écriture, de ces gens-là, il restera toujours très très proche. Il épousera une ballerine russe, et beaucoup des choses qu'il fera en faveur de l'art, ce sera essentiellement aussi pour faire plaisir à sa femme. Il a toujours voulu faire plaisir. On a parlé tout à l'heure du fait de l'opinion très faible, très médiocre qu'il a de l'argent, mais il fera de l'argent. Il fera de l'argent pour aider ses amis artistes, pour leur permettre de vivre de la manière qu'ils veulent.
Et comment était-il reçu à l'époque dans le milieu économique? Comme un original, non?
Mais il y a des portraits de lui qui sont faits. On met l'accent sur son arrogance. Il donne en particulier de l'urticaire à beaucoup de ses répondants aux États-Unis, parce qu'il a, les Américains se sont un peu débarrassés de ce genre de personnage en prenant leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Mais c'est quelqu'un qui épatera par sa lucidité, par la clarté de sa pensée. Il y a beaucoup de notes qui ont été prises par des gens à la fin de réunion en disant, moi j'étais là quand ce monsieur Keynes a parlé, j'étais là et j'ai entendu ça et j'avais jamais entendu rien du même ordre. Il donnait cette impression. Moi j'ai connu ça avec Claude, en fréquentant un petit peu Claude Lévi-Strauss, ce sentiment d'une personne qui voit avec une clarté qui est un peu extraordinaire comment les choses fonctionnent véritablement.
Alors vous dites aussi quand même que ce qui empêchera l'œuvre de Keynes de constituer un véritable changement de paradigme, c'est une certaine paresse chez lui malgré son agitation permanente.
Oui, c'est ça. Il essaie de faire trop de choses en même temps et il finit par écrire des choses qui sont de qualité un petit peu médiocre. Il bouche les trous. Finalement, son ouvrage de 1936, qui est donc un ouvrage référence, mais il y a des parties qui sont entièrement bâclées. J'ai retrouvé dans un volume de ses écrits, des manuscrits qui a été publié récemment, je crois que c'était en 2012, j'ai retrouvé un brouillon du chapitre 5 de ce livre, sa théorie générale, et ce brouillon est de bien meilleure qualité que ce qui paraîtra finalement dans le livre. On a l'impression qu'il se débarrasse un petit peu du problème. C'est assez sur l'intérêt. Finalement, il donne une théorie qui est un petit peu bâclée par rapport à ce qu'il aurait pu faire.
Et vous notez aussi chez lui, dans son œuvre, l'absence de tout rapport de force dans les relations entre agents économiques.
Oui, oui, oui. Il a une tendance, quand il essaie de faire un modèle d'un fonctionnement économique, de se mettre à la place d'une personne qui prend une décision de ce type-là. Par exemple, s'il s'agit d'achat ou de vente, d'être soit l'acheteur, soit le vendeur. Si c'est un prêt, d'être soit le prêteur, soit l'emprunteur. Mais il ne situe pas ça jamais dans un cadre général. Il n'y a pas du tout, je dirais, de dimension sociologique dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de groupe en présence qui pourrait avoir des intérêts divergents. Il n'y a pas de pensée politique, finalement, au sens où les grands penseurs de la politique, Rousseau, Hobbes, etc., pouvaient penser aux choses. Non, quand il parle de politique, je dirais, c'est à un niveau de bien-être immédiat de la population, ce qui est une très bonne chose. Mais il n'a pas une représentation d'ensemble non plus. Et surtout, il n'analyse pas, et ça c'est parce qu'il a, je dirais, une espèce d'allergie totale à la confrontation, aux antagonismes. Il déteste l'idée de la guerre, il déteste l'idée même de la confrontation, à un point tel qu'il met un peu entre parenthèses de manière excessive les luttes qui existent entre les différents groupes dans la population, des intérêts qui sont en conflit, et ainsi de suite. Et là, c'est dommage, parce que c'est ça qui manque finalement dans son ouvrage, c'est d'avoir une analyse en termes de rapport de force de ce qui se passe dans l'économie.
Alors comment le situez? Votre conclusion s'intitule « Ni Marx, ni Keynes ». Comment le situer dans l'univers de l'économie aujourd'hui, en fait, où on pourrait? Ce n'est pas un libéral, assurément.
Non, ce n'est pas un libéral. C'est toujours, je dirais, c'est quelqu'un qui finalement pourrait rapprocher de ce qu'on appelait les socialistes utopiques du début du 19e siècle. Ce que Marx et Engels appellent les socialistes utopiques dans le manifeste communiste, c'est-à-dire des gens qui ont des idées très très intéressantes, qui ne peuvent pas toujours articuler ça entièrement sous une forme théorique qui soit entièrement cohérente. Il est un grand penseur de l'économie. Oui. Mais il est un grand penseur de l'économie, non pas au niveau, je dirais, de modèle individuel, de comprendre soit la monnaie, soit l'intérêt, soit même l'emploi, mais c'est quelqu'un qui a une vision globale, une vision, je dirais, assez grandiose de ce qu'on pourrait faire. Et c'est essentiellement quand il parle de sa vision de passage au socialisme, comme dans le dernier chapitre, qu'on cite d'ailleurs très très rarement, malheureusement, ce dernier chapitre du livre, c'est là qu'il produit le cadre général dans lequel il faut situer sa pensée, et je dirais, c'est le chapitre qui qu'il faut lire en premier. C'est là qu'il y a une grande vision de la vie en société, sous la forme justement de la disparition du conflit, de vivre en bonne compagnie, chacun en manifestant une certaine générosité, une certaine bonne volonté vis-à-vis du fonctionnement de la société en général.
Alors, même si vous êtes sévère avec lui, Paul Jorion, on sent quand même que l'anthropologue que vous êtes, l'homme qui d'ailleurs, il faut que je le signale, tient un blog où on voit, on entend de la musique, où on voit des vidéos, l'homme ouvert sur le monde, on sent que cet homme-là, cet anthropologue qui a travaillé, donc qui était l'élève de Claude Lévi-Strauss, a beaucoup d'affection pour Keynes, finalement.
Oui, oui, bien entendu, oui, oui, ben, c'est un personnage attachant, c'est un personnage qui aime l'humanité, qui aime le monde autour de lui, et c'est ça, on le voit.
Il y a donc des économistes humains.
Oui, oui, oui. Surtout ceux qui n'ont pas de formation ni en sciences économiques, comme ça a été son cas. Malheureusement, ceux qui se situent encore, je dirais, dans la grande tradition de la recherche économique, c'est-à-dire de l'économie politique. Des gens comme Ricardo, que je ne rejette pas moi avec la même violence que Keynes, des gens comme Adam Smith, c'est merveilleux ce qu'on voit chez Adam Smith, Karl Marx, qui est un grand penseur aussi de la pensée économique, de l'économie politique. Le Capital, son sous-titre, c'est critique de l'économie politique, mais il est quand même un grand penseur de l'économie politique de la manière dont il en parle. Non, il faut renouer avec cette tradition-là. Il y a, dans le domaine qui est le mien, qui est l'anthropologie économique, il y a des personnages comme Marcel Mauss, le neveu de Durkheim, il y a Karl Polanyi, qui sont des grands personnages, je dirais, d'un peu de cette catégorie de Keynes. On les trouve plus facilement, je dirais, en sciences politiques, en anthropologie, en sociologie, que dans la science économique, malheureusement.
Domaine économique, science économique, ou les milieux financiers où les mathématiques sont plus que jamais présentes. En fait, je pense à l'eau numérique, aux ordinateurs, aux modèles numériques.
Oui, les modèles numériques, c'est un petit peu un écran de fumée qu'on met entre la réalité et nous, pour nous cacher, un petit, de manière, je dirais, quand même assez délibérée, pour nous dire que tout ça est trop complexe pour que la population le comprenne. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'écris des livres comme ceux-là. C'est pour qu'on ne puisse pas dire à la population dans son ensemble, vous ne comprenez pas l'économie, donc on ne perd pas de son temps même de vous expliquer ça. La finance est trop complexe. La finance est complexe, mais si on consacre le nombre de pages nécessaires, on peut l'expliquer simplement pour que quelqu'un après puisse dire « j'ai compris comment ça marche ».
Merci Paul Jorion. Il faut donc lire ce livre qui s'intitule « Penser tout haut l'économie avec Keynes » publié aux éditions Odile Jacob et aller sur votre site pauljorion.com. C'est ça que vous alimentez donc avec plein de choses. C'est plus un site d'anthropologue que d'économiste. On a bien compris.
Il y a des deux, oui.
Merci d'être venu nous voir de Bruxelles. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez l'émission sur le site de RFI à la page Idée. Je vous y donne rendez-vous avec un article sur Paul Jorion et sur son livre, et écrivez-nous à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées et dans un instant un nouveau journal, bien sûr, sur votre chaîne préférée.